France Inter, il est 9h01. Les infos avec Anaïs Feugard.
Les agriculteurs toujours mobilisés après le feu vert des 27 pour l'accord de libre-échange du Mercosur. Dans leur viseur ce matin, un dépôt pétrolier à La Rochelle et aussi Le Havre, premier port à conteneurs français. Les jeunes agriculteurs veulent contrôler la marchandise des camions pour écarter les produits alimentaires non conformes, comme l'explique Alila Lefebvre. Clément Adam, salarié agricole à Bacqueville-en-Co.
Là, il faut savoir qu'au port du Havre, c'est 5000 camions au jour, donc tous les camions manufacturiers, on ne les contrôle pas parce qu'on n'a pas d'intérêt et pas d'enjeu. Il faut aussi des bénévoles, des personnes pour contrôler les camions, il faut du monde. Donc tous les camions alimentaires, camions frigorifiques qui sortent du port, là on vérifie, on contrôle la marchandise. On va pas vider les camions parce qu'on n'a pas encore de banque alimentaire, donc le but c'est pas de gaspiller la marchandise non plus. Le but c'est de contrôler les camions, communiquer sur ce qui rentre du port et ce qui est importé.
Et d'informer la population.
Voilà, c'est ça.
Clément Adam, des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime au micro d'ici Normandie, devant le port du Havre. En Moselle, un convoi de 300 tracteurs doit converger d'ici une heure vers la préfecture de Metz. Autant d'agriculteurs qui dénoncent la concurrence déloyale du Mercosur, avec l'importation en Europe de bœuf, volaille, sucre, miel, via des droits de douane réduits. Mais en réalité, l'agriculture française est très divisée, car pour les filières viticoles et laitière, c'est un accord très avantageux, Mariam El-Kurdi.
La Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux affiche clairement son soutien à cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Une opportunité stratégique majeure pour un secteur en crise, estiment les représentants de la filière. La consommation de vin est en baisse continue en France, de même que les exportations. La filière est également fragilisée par les taxes douanières de 15% imposées par les États-Unis, premier importateur de nos bouteilles. Alors, les professionnels ont fait leur calcul, l'ouverture de ce nouveau marché en Amérique latine pourrait à terme doubler les ventes de vins français rien qu'au Brésil pour les porter à 100 millions d'euros par an. Le Brésil qui produit peu de vin et dont la consommation est en train de croître. Les fabricants de produits laitiers sont également très favorables à cet accord. Nos fromages ou poudres de lait pourraient être exportés massivement vers le Brésil ou l'Argentine. Ces exportations devraient représenter d'ici 10 ans près de 80 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires en plus pour la filière laitière française.
Le Mercosur doit être signé samedi au Paraguay. La France insoumise et le RN ont déposé des motions de censure contre le gouvernement au sujet de ce Mercosur. Le PS a dit hier soir qu'il ne les voterait pas, puisqu'Emmanuel Macron a fini par dire non au traité de libre-échange. C'est l'un des multiples recours contre l'autoroute A69, cette autoroute en construction entre Toulouse et Castres. Si lors du dernier épisode, la poursuite du chantier a été validée, on attend aujourd'hui une autre décision de justice. Celle qui concerne les zones de chantier non autorisées. France Inter vous le dévoile fin novembre. Le chantier a pris ses aises. Il s'est installé hors du périmètre initialement convenu. Le procureur de Toulouse a donc demandé une suspension des travaux sur ces zones, Rémi Brancato.
C'est après avoir fait survoler le chantier par un hélicoptère de la gendarmerie que le parquet de Toulouse a dénoncé la gravité de ces atteintes à l'environnement, l'utilisation de zones non prévues au dossier. Sur ces sites, le préfet a déjà suspendu le chantier. Un arrêté pris le jour de l'audience à ce sujet, le concessionnaire Atosca doit régulariser la situation, mais des engins sont toujours présents sur certaines parcelles, nous indique la préfecture, qui a déclenché son astreinte 4 500 € par jour à payer par le concessionnaire. Il répond ne pas avoir pu libérer certaines emprises en raison du calendrier de fin d'année. Atosca nous précise avoir utilisé 45 hectares d'emprises temporaires, soit plus de 10% de dépassement de la surface autorisée, et modifié quelques zones des emprises définitives de façon, je cite, « limitée et classique pour un projet de cette nature ». Mais le Code de l'environnement indique qu'il fallait prévenir les services de l'État avant ces modifications. Alors, quelle que soit la décision, aujourd'hui, l'enquête se poursuivra pour établir une éventuelle faute pénale.
Explication Rémi Brancato. Pas un jour sans une menace sur le Groenland. Celle de Donald Trump aujourd'hui à des journalistes à bord de son avion. Conclure un accord, c'est le plus facile, dit-il. Mais d'une manière ou d'une autre, nous allons avoir le Groenland, car si nous ne le prenons pas, ajoute le président américain, la Russie ou la Chine le feront. Donald Trump qui affirme par ailleurs à propos de l'Iran que les dirigeants ont appelé pour négocier. Une rencontre est en cours de préparation selon lui, alors qu'il menace toujours d'une intervention militaire. Ce matin, la Chine appelle à la paix, s'opposant, je cite, aux ingérences étrangères. Enfin, entré dans la lumière pour sa première dans le foot français, le jeune brésilien Hendrick, nouvelle recrue de Lyon, a permis à son club de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France face à Lille 2-1. Metz lance lanterne rouge de Ligue 1 a sombré sur son terrain de Saint-Symphorien face à Montpellier Ligue 2, défaite 4-0. Qualification de Rennes, de Nice. Ce soir, PSG, Paris FC et demain, Bayeux OM.
Anaïs Feugard, restez avec nous. Dans un instant, le magazine de la Grande Matinale.
Rendez vous face revient avec une nouvelle formule.
France Inter, 10h, Ali Rebéi.
Et c'est vous, chers auditeurs, qui êtes au cœur de notre émission, avec des experts, des témoins qui répondront à toutes vos questions. Ce lundi, quelles sont les règles d'hygiène et de propreté à la maison pour rester en bonne santé? Appelez-nous au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 ou via le bouton réagir sur l'appli Radio France.
Grand bien vous fasse.
C'est tous les jours à 10h sur France Inter.
Mon banquier, je l'adore, mais je l'ai quitté pour la France Mutualiste. Je lui ai dit que c'est pas lui, c'est moi. Moi qui ai trouvé un taux à 3,50 sur l'assurance vie. Et que pour mon épargne, le plus important, c'est que la séparation se passe bien.
À la France Mutualiste, groupe Malakoff Humanis, avec 3,50% sur l'assurance vie en 2025 et zéro frais sur tous les versements, votre argent, il suffit d'en parler. Rendez-vous sur le site de la France Mutualiste pour découvrir notre offre et nos conditions.
Taux de 3,50% net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux du fonds euro du contrat d'assurance vie Acte Épargne 2. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements à venir. La France Mutualiste, mutuelle de retraite et d'épargne.
Il est 9h07, merci à vous tous d'écouter France Inter. Allez, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous l'avez compris, nouvelle formule pour le magazine de la matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Me rejoindront bientôt Charline Vanhoenacker, qui soutient les manifestants iraniens en musique, avec Frédéric Fromet et puis Daphné Burki qui nous présentera un jeune trompettiste. Ça va swinguer. Sinon, je me suis posé une question qui a dû aussi vous traverser l'esprit. À quoi ça sert aujourd'hui d'aller dans l'espace, à montrer qu'on a plus de pouvoir que les autres ou à faire progresser la connaissance? On en débat ici même vers 9h20. Mais tout de suite, un visage familier dans le grand portrait, une fille qui est venue à mon micro le 8 février 2024 et dont l'interview a été visionnée des centaines de milliers de fois.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Avec Judith Godrèche, on ne se connaissait pas et d'ailleurs, on ne s'est jamais revu. À l'époque, elle m'avait contactée sur Instagram. J'avais cru à une blague. Il m'avait fallu vérifier que Judith Godrèche était bien Judith Godrèche. Elle voulait parler et moi, je sentais l'urgence de tout ce qu'elle avait à déballer. Cette fameuse semaine de février 2024, Le Monde a commencé à publier une enquête sur son histoire, donnant la parole aussi à ceux qu'elle accusait. Elle a déposé plainte à la Brigade des mineurs contre le réalisateur Benoît Jacquot, de 25 ans, son aîné, pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. Et elle est venue dans ce studio. Ça a été un raz-de-marée. Ensuite, elle a continué à parler, parler, parler. Elle a parlé à la cérémonie des Césars en demandant à tout le cinéma français si c'était bien normal que des metteurs en scène puissent faire tout ce qu'ils voulaient avec des petites filles. Beaucoup ont dit qu'elle parlait trop, qu'elle devenait fatigante à force de parler. Elle le sait, qu'elle fatigue, mais vous savez quoi? Elle a encore des choses à dire, à écrire et à montrer. Portrait numéro 71. Bonjour Judith Godrèche.
Bonjour.
Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux. C'est ce livre qui paraît aux éditions du Seuil. Textes, documents d'archives, lettres de quand vous étiez petite et photos. Vous n'éludez rien. Rien des insultes, rien de la hargne, rien des moqueries que vous suscitez en racontant cette emprise d'un cinéaste sur la gosse que vous étiez. Si t'as une cicatrice, montre-la nous, disent en résumé les réseaux sociaux. Le problème, c'est que la cicatrice, elle est invisible.
Oui, elle est invisible et elle était d'ailleurs pendant très très longtemps invisible pour moi, ou en tout cas réprimée ou refoulée. Et c'était important pour moi de la retrouver, cette petite fille. Et de retrouver cette petite fille de mon enfance, justement pour la réanimer quasiment et pour en faire un portrait en forme de puzzle et qui puisse justement pour aussi la comprendre
Et alors cette phrase, prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux, elle vient d'où ?
Elle vient de la nécessité de donner un coup dans la porte et en effet oui de confronter ou de remettre en question l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre, la loi, j'ai eu le sentiment d'avoir été soumise à une loi sans mon consentement mais sans le savoir et d'avoir eu à respecter la loi des adultes, la loi du plus fort, la loi du réalisateur homme que j'avais rencontré quand j'avais 14 ans et de ne pas avoir pu formuler, en tout cas pendant toutes ces années, que cette loi-là n'était pas l'autorité à laquelle je devais respecter.
Alors, je vais préciser dans quel contexte on se parle. Benoît Jacquot est mis aujourd'hui en examen, mais dans une autre affaire ou dans d'autres affaires que la vôtre. Les faits que vous dénoncez, Judith Godrèche, ils sont prescrits, puisqu'à l'époque, la prescription n'allait pas au-delà de 10 ans. Il n'y a donc pas d'affaire judiciaire en cours dans ce que nous évoquons ce matin. Et c'est intéressant parce que vous êtes allé déposer à la Brigade des mineurs en février 2024, mais néanmoins c'est un combat sociétal que vous menez. Brigade des mineurs d'ailleurs, où vous avez été face à face avec un gros nounours et une petite dinette. Summer dreams ripped at seams, quand vous aviez 12 ans, vous embrassiez la pochette du disque.
Oui.
On a à peu près le même âge et moi j'ai embrassé la télé pour embrasser John Travolta. Il y a dans ce livre que vous publiez au Seuil, Judith Godrèche, des textes, des lettres, je l'ai dit, des photos.
Oui.
Elles sont tout à fait glaçantes, ces photos. Parce que sur ces photos, on vous voit, vous venez de finir la quatrième, et donc qu'est-ce qu'on voit sur ces photos ? On voit que vous êtes une petite fille.
Mmh.
Or, il y a beaucoup qui vous refusent ce mot de petite fille.
Oui, et c'est vrai que... d'ailleurs...
À l'époque.
On n'écrit peut-être pas des livres, en tout cas pour convaincre, mais en l'occurrence, il y a une part de moi qui cherche toujours à convaincre et à me convaincre. Enfin, cette écriture, c'était aussi de retrouver l'enfant que j'étais, mais pas que pour moi, pour être un maillon de la chaîne et pour que ce livre puisse être aussi une clé. Alors, qu'il soit une forme d'utilité, c'est-à-dire qu'on puisse se dire. Moi qui ai vécu telle et telle chose et qui n'arrive pas à mettre des mots dessus, à trouver la forme, ce livre, parce que cette fille, elle dit ça, elle a vécu ça, elle parle d'elle comme ça, elle fait ce portrait d'elle, et ce portrait de cet enfant, j'arrive à m'identifier, j'arrive à comprendre ce que j'ai vécu moi aussi. Et c'est vrai que cette petite fille que j'étais...
En regardant des photos.
En regardant des photos, en ancrant, en fait, enfin les mots pour moi ont une force... qui est d'ailleurs celle la plus grande force, c'est-à-dire que c'est grâce aux mots et grâce à ce livre, j'ai le sentiment d'être dans un que la réparation en fait s'inscrit là, s'inscrit dans l'écriture de la même manière que quand j'étais petite, l'imaginaire, la créativité, toutes ces choses dont cet enfant qui animait mon enfance, en fait, c'est ça aussi que je me réapproprie, puisque lors de ce vécu avec cet homme, et entre mes 14 et mes 20 ans, et de cette histoire de ce vécu avec Benoît Jacquot, avec cet homme bien plus âgé que moi, c'est aussi mes mots il a mis la main sur mon corps mais aussi sur mes mots et ça je me le réapproprie dans l'écriture.
Et là, il faut utiliser des mots crus. D'ailleurs, si vous-même vous écoutez la radio là avec des enfants, je vous propose de baisser le son une ou deux minutes parce qu'on va dire des choses un petit peu crues parce que vous avez eu besoin de les écrire. Vous avez eu besoin d'écrire que quand on a 14 ans et qu'on est une enfant de 14 ans, on ne connaît pas son sexe, on ne connaît pas son corps. Judith Godrèche.
J'ai voulu, et c'est vraiment le seul passage du livre où je parle de manière aussi, où j'utilise la violence des mots, j'ai voulu raconter de manière quasiment clinique ce que c'est d'écrire un corps d'enfant qui se retrouve entre les mains d'un corps d'adulte, d'un adulte plutôt, pardon. Et c'est vrai que je connais la puissance et la violence des mots, et c'est pour ça qu'il faut évidemment donner un trigger warning, parce que ces mots peuvent déranger et
vous dites, moi j'avais 14 ans, je savais qu'il y avait deux trous et je ne savais rien d'autre. Vous dites que quand une petite fille de 14 ans, son corps n'est pas fait pour le sexe d'un homme de 40 ans, n'est pas fait pour cet appétit sexuel-là, pour cette dureté-là. Vous dites qu'il avait un sexe coupant, vous parlez d'une scie bandante. Je le dis, j'en ai les larmes aux yeux. Évidemment qu'il faut arriver à lire, il faut arriver à l'entendre. Voilà, il faut arriver à l'entendre.
Il faut arriver à entendre aussi, et peut-être, il faut arriver, j'espère, mais comprendre l'incompréhension d'une fille de 14 ans, c'est-à-dire, et non seulement l'incompréhension, mais le besoin à ce moment-là, au moment où les choses arrivent, et l'incapacité de comprendre ce qui lui arrive, et aussi d'immédiatement repeindre la chambre en rose, repeindre ce qui lui arrive d'une autre couleur, celui de l'idéalisation, de la romantisation, ça devient immédiatement, il est impératif par instinct de survie, de transformer la violence en grande histoire d'amour. On n'a pas le choix, c'est-à-dire que quand on est victime de violence et qu'on est sexuel et qu'on est enfant, on se sent coupable avant tout, on se sent coupable. La personne dont les mots qu'on emploie à l'intérieur de soi si on arrive à se formuler, par exemple, le mot sale, c'est sale ce que je vis, mais c'est pas sale ce qu'il me fait, c'est sale, je suis sale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre le jugement vient contre soi se sentir coupable, c'est quelque chose qui dure toute une vie. Et c'est en ça que je me dis parfois que l'écriture de ce livre, j'espère, aura une forme de aura un impact sur ceux qui ancrent leur croyance à un endroit où qui est justement de ne pas me croire ou de juger ma prise de parole si tardive, mais j'espère qu'ils comprendront, si ce livre leur tombe entre les mains, que la culpabilité persiste et dure toute une vie, je pense, en tout cas, voilà. Pardon.
Un jour, vous tombez sur le documentaire réalisé par Gérard Miller, ça s'appelle Les Russes du désir, l'interdit, tout un tas de personnalités du monde artistique, du monde intellectuel, témoignent dans ce documentaire de la manière dont ils transgressent. Et puis là, il y a le fameux passage de Benoît Jacquot qui vous fait ouvrir les yeux sur votre propre histoire. Judith Godrèche, on écoute.
Judith Godrèche a 15 ans quand vous la rencontrez. Pourquoi est-ce que votre vie a comme basculé ce jour-là?
C'est parce qu'il y a pour commencer ce désir qui était là manifesté très radicalement, très violemment par une très jeune femme de commencer quelque chose, à savoir d'être actrice. Et pour le coup, Judith a braqué mon désir.
En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous?
Oui, c'est forcément une transgression, parce que je ne sais plus, ne serait-ce qu'au regard de la loi telle qu'elle se dit, on n'a pas le droit, en principe. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Faire du cinéma est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Et en même temps, on peut sentir qu'il y a une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d'autres aimeraient sans doute bien pratiquer aussi.
Je précise que depuis octobre 2025, Gérard Miller, psychanalyste, est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Il y a des jeunes femmes qui ont témoigné, notamment des mineurs, avoir été agressées pendant des séances d'hypnose qu'ils pratiquaient. Ces mots-là, ils vous ont réveillé, ils vous ont sorti de la culpabilité, ils vous ont sorti de ce que vous avez voulu romantiser, de l'histoire que vous vous étiez racontée, de cette grande histoire d'amour. ils sont très intéressants à réécouter aujourd'hui et à confronter avec vos mots, ceux que vous publiez dans ce livre, Judith Godrèche, et qu'inlassablement vous avez emmené de micro, en disant comment pouvez-vous le croire ? Comment pouvait-il y croire ? Comment pouvez-vous, vous tous, le croire ? Qu'une jeune fille de 14 ans, qu'une petite fille de 14 ans a vu un homme de 40 ans et s'est dit « je vais braquer son désir ».
Oui, et vous voyez, quand j'entends ces mots, je me dis « tiens, alors maintenant, et deux ans plus tard, après avoir en effet, après que cet entretien entre Gérard Miller, ce documentaire de Gérard Miller et cette interview de Benoît Jacquot soit apparu dans ma vie et déclenché un tel... bouleversement dans ma vie et un tel choc, justement, je me dis, bah voilà, on entend deux hommes qui sont en train de se réjouir dans une conversation absolument mondaine et de se galvaniser l'un l'autre de cette idée de la transgression et aussi de l'inversion des rôles, c'est-à-dire, d'abord, ce n'est pas une enfant qui veut séduire un adulte, et puis même un enfant un jour pensait être amoureux, comme on peut se dire quand on est enfant de John Travolta qui était un adulte quand j'étais petite. Ça ne veut pas dire d'abord qu'un adulte doit passer à l'acte. C'est l'adulte qui met toujours les limites et non pas l'enfant qui connaît les limites. Et puis par ailleurs, absolument pas. Ça n'est pas... L'inversion des rôles va très très loin puisque c'est même justement limite. Benoît Jacquot est en train de dire qu'il était victime. Et surtout, c'est intéressant parce qu'il emploie le mot loi et il emploie la loi, il se moque de la loi. Et c'est à cet endroit-là, précisément, que dans ma détermination, dans ma colère, et moi, j'ai voulu invoquer la loi et le remettre, lui, à l'endroit de la loi. Qu'il se retrouve face à la loi, à l'autorité, et qu'il aille se galvaniser et faire des blagues en parlant d'un enfant de 14 ans, qui est d'une enfant de 14 ans qu'il rencontre devant un juge.
Vous diriez, depuis que vous témoignez, depuis deux ans, que vos parents ont été roulés dans la boue. Est-ce que vous leur accordez une très belle place dans ce livre ?
Oui, ou en tout cas, j'ai découvert, parce qu'en fond, vous savez, moi aussi, je suis quelqu'un qui, je parle, les choses m'arrivent, c'est comme si les choses... Oui, mais j'ai accepté d'aller parler au César, j'ai fait ce discours, etc. Mais dans le fond, à chaque étape, à chaque moment de ces deux années depuis ma prise de parole et depuis cette plainte, j'ai à faire face à des menaces, à des agressions et à différentes réactions de l'opinion publique, on va dire.
Pourquoi les parents de Judith Godrèche n'ont-ils rien dit ? Pourquoi les parents de Judith Godrèche n'ont-ils rien dit ? Vous l'écrivez.
Oui.
Pas autant de fois qu'on vous l'a seriné, mais presque.
Oui, parce que je me suis posé la question, pourquoi ce réflexe ? C'est-à-dire que la réaction, par exemple, face à... par exemple, notre entretien aujourd'hui, peut-être que sur les réseaux sociaux, la réaction immédiate sera de dire « et les parents ?»
Et moi je me dis,
mais attendez, vous venez d'entendre, par exemple, ou d'entendre Benoît Jacquot, ou de lire une enquête dans Le Monde, ou de etc. Et votre réaction, c'est pas de dire, mais tu te rends compte ce qui lui a fait ce type, mais tu te rends compte ce type de 40 ans avec cet enfant de 14 ans. Non, c'est de détourner l'attention qui devrait être entièrement ancrée, tournée, pointée, ce face-à-face avec l'agresseur. C'est-à-dire, pourquoi détourner le sujet et se tourner vers les parents ? Et surtout, quand il s'agit de la mère, c'est-à-dire, je trouve ça doublement violent que de dire, au lieu d'ancrer, on va dire, sa révolte, la réalité, c'est que le coupable, c'est l'agresseur. Et le premier responsable, le responsable des agressions sexuelles dont je suis victime, ce sont mes agresseurs.
Pas votre mère.
Voilà.
qui est brûlée en place publique.
Voilà. Et pourquoi la société, à un endroit où une partie de la société patriarcale a besoin de protéger cette image de l'homme, de l'artiste, de celui qui d'une certaine manière représente une forme de pouvoir, d'autorité justement qu'on ne veut pas remettre en question. Cette autorité-là est celle... Et vous savez, il y a ce mot quand on porte plainte, qu'on découvre, il y a, et pardon, je vais peut-être mal le dire, hein, mais il y a, c'est-à-dire qu'il y a viol avec autorité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de, ils étaient des réalisateurs, donc j'étais dans une position, vous savez, de... je travaillais, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce rapport à l'autorité lié au métier, même si vous êtes un enfant. Ça paraît étrange de dire ça. J'avais un métier, j'étais un enfant. Je travaillais, j'étais actrice. Et c'est pour ça aussi qu'il me semble fou de déplacer le problème, même si le problème n'est pas le mot.
Mise au point, parfois très, très, très émouvante. C'est ce livre, « Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux ». Et c'est Judith Godrèche. La preuve, elle n'a pas fini d'en parler. Aux éditions du Seuil. Merci Judith Godrèche d'être revenue 2 ans après sur France Inter.
Merci. Merci.
Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Jolene, c'est l'hymne de Dolly Parton. Il est 9h29, vous écoutez France Inter et j'aime tellement, mais tellement cette chanson. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, il y aura Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. La répression fait rage en Iran et moi, ma seule arme contre l'ayatollah Khamenei, c'est d'amener Frédéric Fromet et pour le faire saigner des oreilles. Ah. L'ayatollah, hein, ah. Pas Frédéric.
Et puis il y aura Daphné Burki. On est très content de voir revenir Frédéric Fromet dans ce studio. Et puis il y aura Daphné Burki.
Bonjour, bonjour. Ce matin, ma nouvelle tête est un musicien. C'est celui qui a mis une trompette dans le rap, dans l'électro et dans les petits cœurs fragiles. Il sort son premier album, il s'appelle Bézo. Il faut absolument que je vous le présente.
Voilà, et puis là, sur France Inter, et ben c'est l'heure du débat du jour.
Pendant 8 mois, et ben il y aura de la maintenance, un peu de plomberie, un peu d'électricité, peut-être. Et j'aimerais tellement qu'il y ait des sorties extravéhiculaires, on appelle ça des EVA. On est tous prêts, on a été formés, et ce serait une partie passionnante.
Nous voici à quelques jours du départ de la Française Sophie Adnot pour la Station Spatiale Internationale, la deuxième Française à décoller pour les étoiles. C'est un événement colossal. Mais concrètement, à quoi ça sert d'envoyer des astronautes dans l'espace? Sincèrement, on peut se poser la question, le coût financier et écologique est énorme. Est-ce que c'est utile pour faire avancer la science? Ou bien est-ce que c'est surtout une démonstration de puissance? Pour ou contre ces missions spatiales habitées qui sont aussi des grosses opérations de communication.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre ce matin avec Irénée Regnault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur d'une histoire de la conquête spatiale qui est parue aux éditions de La Fabrique. Et face à vous, Lionel Suchet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté ce débat. Vous êtes directeur général du Centre National des Études Spatiales, qui est donc notre agence spatiale nationale. Un petit mot avec vous, Lionel Suchet, évidemment. On va commencer par le départ de Sophie Adnot. Vous nous racontez cette mission dite Epsilon.
Oui, ben c'est une mission qui se prépare et Sophie doit partir. Alors, on ne sait pas encore
voilà,
quand.
Il faut que vous nous expliquiez, elle va partir.
Elle part normalement à partir du 15 février, mais
ça risque d'être avancé.
Il y a un problème à bord de la station. Il y a un équipage qui va être rapatrié. On ne sait pas exactement encore quand, mais sans doute le plus vite possible. Et il est possible que Sophie et son équipage, donc de 4 personnes, partent plus tôt pour réaliser cette mission de 8 mois.
Voilà, vous vous réjouissez. Pour vous, c'est un grand moment, le départ de Sophie Adnot dans l'espace.
Oui, c'est un grand moment parce que ça fait longtemps qu'on prépare cette mission, de nombreuses expériences à réaliser. Et puis je crois que c'est une fierté aussi, on y reviendra, mais pour les jeunes filles notamment et tous les jeunes Français qui se projettent vers des carrières scientifiques.
200 expériences scientifiques en micro-apesanteur, c'est ce que vous annoncez au programme de sa mission. Elle conduira notamment 7 nouvelles expériences françaises et elle en prolongera d'autres pour le Centre d'aide au développement des activités en micro-apesanteur et des opérations spatiales. Pour vous, il y a donc une vraie utilité à faire progresser le savoir, la connaissance et la science à envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, Lionel Suchet ?
Oui, le moteur principal de cette activité, elle est politique, on y reviendra. Mais quand on a une station comme la Station Spatiale Internationale, c'est un laboratoire unique dans lequel les effets de la gravité ne se font pas sentir. Sans rentrer dans les détails, c'est comme s'il n'y avait pas de gravité. Or, tout le vivant sur la Terre, depuis que le vivant se développe, c'est construit avec la gravité. Et donc c'est très intéressant pour des scientifiques d'enlever ce paramètre, la gravité, pour des phénomènes complexes comme la reconnaissance, les effets cognitifs de reconnaissance de visage, pour l'embryogenèse, comment la différenciation cellulaire se passe. Les scientifiques, à un moment donné, de leur réflexion, pensent que la gravité joue, parce qu'elle a joué un rôle dans ce phénomène. On enlève la gravité et on voit, on essaie de comprendre ce qui se passe et donc ça éclaire le problème d'une façon nouvelle. Et ça, c'est dans la station que ça peut se faire et ça ne peut pas être reproduit au sol.
Au sol. Irénée Regnault, vous êtes, vous, très critique de l'utilité scientifique de ces missions habitées. Je vous cite, « L'utilité scientifique des astronautes est faible, voire nulle, en tout cas complètement performative. » Expliquez-nous, envoyer Thomas Pesquet ou Sophie Adnot dans l'espace, ça sert à rien ?
Alors, d'une part, je tiens déjà à souhaiter un bon voyage à Sophie Adnot, je suis aussi français pour ma part, ça compte un petit peu quand même. Et effectivement, je vais nuancer un peu ce qui a été dit, puis je vais rejoindre certains éléments. Effectivement, il y a une ambition qui est d'abord politique au vol habité, il ne faut pas se le cacher, je pense que c'est évident.
On va y revenir, mais là on débat de l'utilité scientifique.
Si on prend à stricto sensu l'utilité scientifique, effectivement, si on prend la longue histoire du spatial, ça a toujours été un des arguments, il y en a eu d'autres, par exemple dans les années 80, on avait beaucoup des arguments plutôt de l'ordre de l'ingénierie, mais on avait quand même, dès le début des années 80 aussi, notamment sur Reagan, l'idée qu'on allait fabriquer des matériaux extraordinaires grâce à la microgravité. Quelque part, c'est aussi un environnement qui on prête des caractéristiques scientifiques qui sont largement au-dessus de ce qui peut prévaloir là-haut. Et en fait, on se rend compte que, pour être très précis, ce qu'on fait dans la Station Spatiale Internationale, c'est principalement de la science sur le corps humain. Et en cela, c'est performatif, et c'est pour ça que je dis ce mot que vous avez cité, ça permet de comprendre comment le corps humain fonctionne dans l'espace pour continuer à aller dans l'espace. Donc vous prenez par exemple la mission Proxima de Thomas Pesquet, c'est 54% d'expériences qui sont de ce type-là. Certaines expériences de Sophie Adnot sont aussi de ce type-là, par exemple pour faire des échographies, des os, du corps, aussi pour comprendre comment le corps réagit en microgravité. Et le reste, c'est de la démonstration scientifique, par exemple des casques de réalité virtuelle, des choses comme ça, et un tout petit peu de science, vraiment fondamentale.
Un tout petit peu de science fondamentale, mais vous dites, attention, ça coûte
Très cher.
En fait, c'est toujours un petit peu la question. Même moi, si je m'extrais de ce positionnement, le débat a toujours existé. Et il existe par rapport à quoi ? Il existe par rapport au prix total de la station spatiale internationale, au coût politique que ça a aujourd'hui de partir avec des Américains ou d'autres, etc. Et effectivement, si vous prenez parfois les sorties les plus, moi que je qualifierais parfois gênantes, en fait, des astronautes qui disent on va guérir le cancer, ou alors, on fait plus attention là-dessus maintenant, mais c'est arrivé, c'est clairement arrivé. En fait, la communauté scientifique en rigole depuis 30 ans. Elle s'est érigée contre la station spatiale internationale dans les années 90. Toutes les associations scientifiques américaines n'y étaient pas favorables, parce qu'en fait, les budgets sont bien mieux attribués sur Terre. Donc voilà.
Et vous dites aussi que Thomas Pesquet développe tout un argumentaire écologique. Or, vous dites que c'est parfaitement incompatible. On ne peut pas avoir une vision écologique de la conquête spatiale.
Ah, sur principe, en fait, il faut bien comprendre que cet argument écologique est arrivé dans le temps. Il a succédé à d'autres arguments. On est passé du cow-boy des années 60, en gros à l'ouvrier néolibéral des années 80, qui vont aller construire la station. C'était vraiment un argument très fort, ça, dans les années 80. Et aujourd'hui, selon les pays, puisque les Américains n'ont pas toujours la même rhétorique, en France, on est plutôt sur un discours climatique. Et Thomas Pesquet est effectivement cité comme une des personnes référentes sur les questions de climat. Mmh. Donc on ne peut pas le nier. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas. En revanche, effectivement, les progrès climatiques qu'on fait, ou environnementaux qu'on fait dans la station, ils tournent un petit peu en rond, comme la station elle-même.
Oh, Lionel Suchet bondit là.
Je vous donne la parole.
Comme ça, allez-y, vous pouvez répondre.
Quelques questions par rapport à ça. On a parlé d'échographie, et c'est vrai qu'on développe des échographies, notamment en France. Hein, un des deux échographes de la station spatiale internationale est français. Ça permet de préparer les vols de longue durée dans l'espace, mais la station spatiale, c'est un désert médical. Et donc, tous les travaux qu'on fait pour pouvoir faire de l'échographie de façon quasi autonome dans l'espace, ça sert déjà pour faire de l'échographie dans des déserts médicaux, parce qu'on a des méthodes maintenant pour faire de l'échographie par quelqu'un qui ne connaît pas l'échographie, il n'a pas besoin du médecin en présence. Un autre élément important, au niveau science, on a fait des expériences très, très intéressantes en embryogenèse, j'en ai parlé sur les fluides critiques aussi, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir au sol, des phénomènes physiques. Par exemple, vous voulez, pour être simple, une casserole qui est en train de bouillir, la convection qui fait que tout à l'interface liquide, gaz, ben ça bouge dans tous les sens. Les physiciens ne peuvent pas revoir ça, alors que si vous êtes en micro-pesanteur, vous avez une interface complètement lisse et vous pouvez étudier ça de façon beaucoup plus précise. Donc il y a des vrais intérêts.
Est-ce que vous reconnaissez qu'en réalité, on fait des expériences dans l'espace avec un coût financier exorbitant pour expérimenter la possibilité de continuer à aller toujours plus loin dans l'espace, c'est-à-dire sur la Lune et sur Mars ? Lionel Suchet.
En partie, oui. Alors, le coût exorbitant, le coût pour les vols habités en France, c'est 2% du budget français. Donc, on peut dire rapidement, c'est exorbitant, etc. La France et l'Europe ne se placent pas dans une logique de vouloir être autonome sur le vol habité pour aller planter un drapeau européen par un Européen sur Mars demain et du sol au plafond.
Donc, c'est pas de la conquête spatiale.
C'est pas de la conquête spatiale. Mmh. On est dans une logique où on défend des valeurs de coopération pour travailler avec d'autres pays, parce que l'exploration du système solaire et pas la conquête, c'est pour nous une action de l'humanité tout entière. Et donc on travaille avec des partenaires pour pouvoir.
Donc c'est
faire.
Très intéressant. Vous dites, en réalité, c'est un gage de stabilité géopolitique, c'est un gage de coopération internationale, et pour ça, ça a de la valeur.
Et oui, c'est en partie pour ça que ça a de la valeur. Et on voit bien dans l'histoire du vol habité qu'on est parti d'une course. Le premier homme dans l'espace, entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, la première femme dans l'espace, et puis les stations Mir côté russe, et puis la navette américaine, deux voies complètement séparées, et on a relié tout ça avec l'ISS, où aujourd'hui quand même, c'est le projet au niveau mondial,
on peut pas dire que
où travaillent les Russes, les Américains, les
la
Japonais, les Européens.
La course n'est pas revenue dans l'imaginaire aujourd'hui, au premier plan de l'imaginaire spatial.
Non,
a quand même Jeff Bezos, on a quand même Elon Musk, on a quand même des milliardaires américains... Il y a quand même un petit concours de quéquettes là, côté fusée, non ? Ça fait rire Lionel Suchet.
Le concours d'orbite, on dit. Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit là. Effectivement, il faut faire la différence entre le projet politique européen qui n'est pas le projet américain. Après, il faut toujours tempérer, même si ce n'est pas beaucoup, parce que moi, je m'attendais à l'argument qu'on nous sort souvent, c'est 35 euros par an, par Français en moyenne, on peut mesurer comme ça aussi. Ça fait quand même des centaines de millions à la fin. Et ce n'est pas tellement la question. Il faut voir que le projet de l'ISS, parmi toutes les raisons de le faire, une des grandes raisons pour les Américains, ça a été aussi de rattraper des cerveaux des rogue states, donc des états voyous, pour qu'ils aillent en gros pas faire leur projet de leur côté. L'Europe y a participé d'une certaine manière, aussi pour être diluée diplomatiquement dans un projet qui est d'abord un projet états-unien. Il faut voir, c'est un gros Lego, hein, la station spatiale internationale, hein, qui va ramasser aussi des bouts ex-soviétiques, etc. Et c'est quand même un peu un système de vase communicant. Quand l'ISS arrive, on abandonne des projets d'exploration en Europe à la fin des années 90.
Donc on se soumet 2000. À un programme américain, à des priorités américaines, à un récit américain,
je
c'est
ça que vous dites, Irénée. Je ne dirais pas qu'on se soumet, mais en revanche... Je pense
non,
que
dit Lionel Suchet,
dans
en
Voie lactée, moi, c'est pas tant l'ISS à la limite qui de toute façon va être désorbité, donc c'est l'après qui va se préparer. Et là, quelque part, il y a un lobbying fort qui gagne pas, mais pour faire du vol habité européen autonome, ce qui serait vraiment pour le coup une bêtise fondamentale. En revanche, ce qu'il y a derrière, c'est quand même l'accord plus large avec les États-Unis dans le cadre du programme Artemis, qui lui retourne sur la Lune. Et ça,
pour conclure, voilà. un vol habité européen autonome, Lionel Suchet, vous dites. Comme notre autre invité, comme Irénée Regnault, ce serait une bêtise totale ?
Oui, parce qu'on porte des valeurs d'abord de coopération, et on considère que ça doit être fait ensemble, et pas sur un pays, un continent seul, qui développe tout en complémentarité, en redondance avec les autres, pour être le premier à aller planter son drapeau. C'est pas ça les valeurs qu'on porte, c'est vraiment des valeurs de coopération.
C'est du soft power.
Alors, j'abonde encore, hein, parce que je prends un peu le rôle de celui qui est contre, et voilà, c'est le jeu, mais je suis d'accord, l'Europe, faut le redire,
critique.
Parce que l'Europe spatiale s'est constituée sur la coopération. Ça n'empêche pas d'être nuancé, comme je pense que là-dessus, il faut être d'accord. Et vous m'aviez dit, pardon, est-ce qu'on plante un drapeau là-bas ou est-ce qu'on... Moi, ce qui me gêne vraiment, je pense, si je suis un peu plus normatif, c'est l'idée qu'on continue à travailler avec les États-Unis sur un projet de conquête qui n'est pas le nôtre. Et je crois qu'il faut faire aussi très attention au niveau des agences à ne pas tromper le public sur les apports scientifiques de la station spatiale. La rhétorique de retombée, on nous bassine avec ça depuis 50 ans. Ce n'est pas en mettant de l'argent sur la station spatiale qu'il y a un ruissellement par terre.
Conclusion, Lionel Suchet, si vous voulez ajouter un mot avant le départ de Sophie Adnaud.
Avant le départ de Sophie Adnaud, j'ai un des gros intérêts, une fois qu'on a ces missions, une fois de plus qui existent, c'est l'inspiration que ça représente. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Combien de jeunes filles après les vols de Claudie Aigneret se sont dit, ben on peut, et pas que des jeunes filles d'ailleurs, des femmes et des françaises se sont dit, on peut le faire, se redonner de la confiance en soi, se redonner de la fierté par rapport à ce qui peut être fait. Les pourcentages de filles dans les écoles d'ingénieurs sont encore très faibles, trop faibles. Et ça, c'est un intérêt aussi de ce genre de mission, de susciter cet intérêt
pour la
science.
C'est pour ça qu'on envoie une femme dans l'espace. Lionel Suchet, Irénée Regnault.
C'est aussi un vieil argument, mais enfin,
allez,
c'est difficile.
C'est la fin de ce débat. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté d'en discuter sur France Inter. On va écouter Benjamin Biolay, Soleil profond, c'est le choix de la grande matinale. Il est signé Valentie Chenebois, notre programmatrice préférée.
Une vallée de fleurs et de miel.
Benjamin Biolay, actuellement en tournée acoustique dans toute la France et cet été sur la scène des festivals. Il est 9h45. Joie absolue de retrouver Charline avec Frédéric Fromet et Daphné Burki avec sa nouvelle tête. Bref, ça va être une fin de magazine tout en musique. Charline, donc, la répression fait rage en Iran et votre seule arme contre l'ayatollah Khamenei, c'est de le faire saigner les oreilles.
C'est comme des barbares, comme un régime.
De vieux barbus qui tremblent devant un jean slim.
Et leur seule réponse, c'est qu'ils oppriment.
Entre la fatwa et les menaces,
tu risques ta vie juste pour une mèche qui dépasse.
Tous ces types qui s'en prennent à toi.
Ces vieux gars, molla, 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 ouh, 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 allez barre-toi, molla, ouh, 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 ton peuple ne veut plus de toi,
il ne veut plus que tu fasses ta loi,
alors casse-toi, casse-toi, ayatollah, tolla,
ouh, 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 ouh.
Étouffe-toi, molla, ouh, 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 ouh,
avec ta charia,
c'est ton peuple qui reprend ses droits.
Alors casse-toi, casse-toi,
tu n'as jamais eu aucun état d'âme.
À briser des millions de femmes
au nom de l'islam.
Tu prends perpète à cause d'une fête,
ou quand t'as donné ton avis sur internet,
qu'on veut te mener à la baguette.
Quand tu te fringues, ils décident pour toi.
Non mais c'est qui ces mecs habillés en pyjama?
À tous les coups, ils flippent s'ils voient
Christina Cordula, molla, 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 ouh, 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 ouh.
On sait tout ce que tu as, molla, ouh, 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 ouh.
Du sang sur les doigts,
des Iraniens aimeraient mieux un chat.
Même Félix, le chat.
Hop, 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 t'es sérieux là? Tu viens de faire une blague sur le chat, vraiment?
Ouais, il y avait aussi le chat de Philippe Geluck.
Ouais, il y a le chat beauté aussi, mais là ça marche moins bien.
Et il y avait aussi Charline, mais t'es un petit peu occupée.
Oui, je t'ai occupée à faire une chanson, Fred.
Molla, 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 ouh, 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 ouh. Je crois que cette fois, molla, ouh, 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 c'est fini pour toi.
Elles allument leur clope à Téhéran en cramant ton turban, molla, barre-toi.
Charline, il y a chat dans Charline? Mais non, il n'y a pas chat dans Charline. Charline et Frédéric Fromet, bravo mon ami.
La grande matinale sur France Inter.
On continue en musique. Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Oui, parce que ce matin, ma nouvelle tête est un musicien. Il est 9h50, nous sommes toujours en direct dans le grand studio de la matinale de France Inter. Il est trompettiste, mais aussi producteur et compositeur. Il s'appelle Bezo. Mais c'est surtout un garçon qui a mis une trompette là où on ne l'attend pas toujours. Dans le rap, dans l'électro, dans des studios où ça sample, où ça boucle, où ça brûle vite. Et qui a longtemps avancé par collision heureuse, comme il le dit lui-même. Et aujourd'hui, grand jour! Il sort son premier album avec ce joli nom, Une fleur et des papillons. Bonjour Bezo, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci beaucoup. Alors par contre, c'est le quatrième album.
Déjà ? J'ai dit premier ? Bah, grand ouais, jour, mais... il sort un album. Et hop là, et vous êtes venu très bien accompagné. Dis donc, comment elle s'appelle ? Alors, je précise, c'est la trompette dont je parle. Oui.
Non, elle n'a pas de...
Elle n'a pas de nom.
Non.
Ah, parce que je vois Sonia, elle aurait pu me dire, dis donc, t'exagères un petit peu, Daphné. Hein, commencer une interview en demandant c'est quoi ce petit nom. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par un saxo plutôt que... Bref, on arrête là, le saxo. Si je vous pose la question, c'est parce que vous avez raconté que vous avez un rapport amour-haine avec la trompette.
Ouais, complètement. Mais en fait, c'est un instrument tellement exigeant et qui est très rancunier. Donc, ce qui fait qu'en fait, si on joue pas, par exemple, deux jours, elle nous le fait savoir. Et en fait, quand t'es producteur et en même temps trompettiste, bah, y a parfois Il y a des journées où je suis en studio toute la journée, que sur l'ordinateur ou quoi, à faire des prods pour des artistes. Et le soir, je la regarde de loin. Et le lendemain matin, elle me le fait bien, bien payer.
On écoute quelques notes. Une fleur et des papillons, c'est le nom de cet album, et vous expliquez que chaque morceau raconte un bout d'un an et demi, deux ans de votre vie, où vous avez compris que vous répétiez les mêmes schémas amoureux, vous avez décidé de briser le cercle, une thérapie, une prise de recul, arrêter l'alcool, et puis surtout une découverte, une joyeuse découverte. On peut créer dans la joie et pas uniquement dans la nostalgie et la douleur. C'est qui la fleur? C'est qui les papillons?
La fleur, c'est mon amoureuse, parce que l'histoire finit bien. Ça a très très mal commencé, mais ça finit bien. Et les papillons, bah, c'est parce qu'en fait, on reste poète avant tout. Et ça représente un peu tout ce qu'on a un petit peu dans le ventre, enfin ce que représente l'amour, quoi. Donc voilà.
On va entendre un autre son qui s'appelle Petit Bonheur, parce qu'aujourd'hui, oui, ça reste un grand jour. Cet album qui sort, ça c'est votre histoire, mais vous l'avez dit au début de cette interview, vous avez été longtemps appelé pour qu'on ajoute une couleur, un souffle, en tout cas une trompette sur un titre. Vous avez fait une énorme tournée avec Kungs, vous avez collaboré notamment avec Diziz, avec Ichon, avec Luigi Pongo, Primero. Vous dites, j'ai jamais vraiment eu de famille musicale. Dans le jazz, bah, j'étais trop hybride. Dans le rap, il est le mec à la trompette quand il débarque en studio. Dans l'électro, bah, vous n'êtes pas vraiment non plus du sérail. Cette sensation d'être toujours entre deux mondes, c'est une force ou c'est inconfortable?
Ça a été inconfortable pendant un moment, maintenant c'est plutôt cool. Parce que la musique est en train un peu de changer, et on a le droit un peu d'aller un petit peu partout. Le seul problème, c'est qu'en France, on a un peu envie de cataloguer tout le temps les gens. Et donc parfois, on ne sait pas trop où mettre. Mais moi, j'ai trouvé ma place à moi, donc déjà, c'est pas mal, quoi.
Et vos influences, elles sont géniales, elles vont d'un monde à l'autre. Il y a Bon Iver, il y a James Blake, il y a Hooklou, Dr. Dre, Dizzy, je le disais, on entend le son aussi de Christian Scott qui vous accompagne. Mais je vous ai demandé, très lourdement, si vous deviez faire une reprise d'un son aussi qui a fait partie à un moment donné de votre vie. Vous m'avez répondu Sheila Spacer et j'étais tellement contente d'entendre Sheila Spacer à la trompette. Pourquoi ce choix?
Parce que c'est un son, déjà c'est un des sons que j'aurais adoré faire quand on pose un peu ce genre de questions, et ça a accompagné toute mon adolescence.
À l'époque on disait une chanson. Hein.
Ouais.
Sheila, elle faisait des chansons.
Ouais, c'est vrai. On disait des chansons.
Et j'ai eu la chance de la rencontrer, d'être invité par elle sur scène au Grand Rex et de participer à la composition de son... Enfin en fait j'ai enregistré des trompettes pour son dernier album là, qui est sorti l'année dernière.
On salue Sheila et on écoute Spacer à la trompette juste comme ça pour le kiff. Hein,
allez, pour le kiff.
Ça donnerait quoi?
Incroyable.
J'espère qu'elle a entendu
ce matin. La trompette.
Alors je remonte cet album parce que finalement il y a un souci. Je le montre à l'image si jamais vous nous suivez en vidéo. Il y a un gros souci, c'est votre grand-mère centenaire qui s'appelle Kaki, qui le dit elle-même, elle n'aime pas la couverture, on l'écoute.
Je ne comprends pas. Comment je sais que c'est le disque de Rémi puisqu'il n'y a pas son nom sur la pochette? Je trouve ça anormal.
Et la raison, Kaki n'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi, Rémi Bézeau? Il n'y a pas votre nom sur la pochette.
Est-ce que c'est vraiment la vraie voix de Kaki?
Oui, bien sûr.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Elle est géniale, Kaki.
Elle est incroyable. Elle est extraordinaire. Elle a fêté ses 100 ans cette année en juin. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui organiser un festival rien qu'à elle. Et il y avait un line-up assez incroyable parce que j'ai eu la chance de performer avec mon projet. Mais j'avais avec moi Primero, Zedjun Pavarotti, DC's aussi. Et du coup, on a fait... Bah, juste pour elle. Elle était devant nous et on a tout joué pour elle.
Je vais raconter pourquoi, juste pour elle. Vous avez grandi entre La Rochelle et l'île de Ré dans une famille d'artistes, un père dessinateur, illustrateur, une mère comédienne. Vous avez toujours été dans les théâtres et dans cette galaxie familiale incroyable, il y a Kaki, mais il y a la sœur de Kaki qui n'est autre que Ginette Garcin. C'est une grande figure de la chanson d'après-guerre. Moi, c'est une de mes chansons cultes, mais c'est que vrai. Je suis ravie de vous faire entendre. Et je suis ravie que vous soyez arrivée dans ce studio parce que je ne connaissais pas votre lien à la base avec elle. On écoute Ginette deux secondes.
Souvent lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque.
C'est votre grande-tante.
C'est ma grande-tante, exactement.
La et Kaki s'occupait, entre autres, de votre grande-tante, en fait.
Exactement. En fait, moi, je les ai toujours connues ensemble. Elles habitaient boulevard Berthier ensemble. Et c'était mes deux grands-mères, quelque part, quoi.
Avec vos deux grands-mères, alors j'imagine que ça donne... Est-ce que d'être de naître d'une famille comme ça, aussi artiste, ça demande du coup une certaine exigence ?
Bah pas tant que ça. En fait, je m'en rendais pas compte du tout. Mais vraiment pas. C'est ma mère qui m'a mis au conservatoire à l'âge de 7 ans parce qu'elle avait entendu dire par des copains du tennis quand j'étais petit qu'il y avait une école qui faisait classe horaire aménagée musique. Et voilà. Mais ça m'a... Je m'en suis pas vraiment rendu compte, en fait.
Alors aujourd'hui, vous en êtes pas rendu compte, il n'empêche que vous sortez cet album et un titre que vous allez nous jouer dans le studio de France Inter. Il s'appelle comment ce titre aujourd'hui ?
Il s'appelle « Là où les lucioles s'endorment ».
Alors allez-y, cette trompette qui n'a pas encore de nom, moi je vous dis qu'elle en aura. Cet album s'appelle Une fleur et des papillons. Il s'appelle Bézo, B-E-S-E-A-U. Si vous le cherchez sur les réseaux,
B-E-S-A-U.
J'ai rajouté un E. Si vous le cherchez sur les réseaux. Mais surtout, le 16 janvier 2026, donc cette semaine, à la Gaîté Lyrique, allez le voir sur scène. Merci.
Merci. Ça, c'est beaucoup. À Paris. Elle est contente, cette trompette très caractérielle qui vous fait la gueule et qui vous fait régulièrement des scènes. Elle est contente d'être venue sur France Inter.
Très heureuse.
C'est une très bonne chose.
Beaucoup.
Alors, juste après les infos, vous restez avec nous parce que Ali, dans Grand Bien Vous Fasse, va nous raconter quelles sont les bonnes règles d'hygiène et de propreté.
Bonjour.
De la maison. Salut Ali.
Bonjour à toutes et à tous. Ah, je vous interromps plus peut-être.
Avec un influenceur ménage qui a un pseudo incroyable, Ali.
Ah, ben oui, le viking du ménage.
Ça s'invente.
Alexandre Cressiot et puis un microbiologiste, hygiéniste Christophe Mercier-Tellier. Quelles sont les bonnes règles d'hygiène et de propreté à la maison ? Alors, si vous êtes maniaque de l'hygiène et de la propreté, appelez-nous. Si au contraire, vous êtes un partisan d'une forme de saleté bien tempérée, appelez-nous aussi. Racontez-nous comment ça se passe avec votre moitié ou en famille, avec cet excès de propreté ou ce relâchement. 01 45 24 7000.
À tout à l'heure. Et moi, je remercie et je vous présente au passage tous les garçons et toutes les filles qui fabriquent la grande matinale. C'est-à-dire 3 heures de radio tous les jours. Il y a Thibaut Cavaillès à la rédaction en chef, assisté de Swat Bellani à la technique, il y a Rémi Sistiaga et Maxime Goudard cette semaine. À la réalisation, il y a Maria Pasquet et Christophe Imbert. À la programmation, à la documentation, il y a Alexandre Gilardi, Amélie Stadelman, Perrine Malinge, Mathilde Clatt, Joachim Taïeb, Capucine Aubert, Jean Brossier, Juliette Drone, Alexandra Brouillet, Cléa Journeau, Mao de Butler à la coordination. Merci à tous les standardistes de France Inter.